Jean-Yves Dehoux, bonjour. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions d'Argo, 1, 2, 3, Picard, pionnier du ciel et des abysses, donc qui couvre les multiples inventions de trois générations de la famille Picard. Alors, j'imagine qu'il y a eu énormément de recherches en amont et je suppose que cela n'a pas été facile de faire le tri, non ?
Ça n'a pas été très facile parce qu'il y a beaucoup de livres écrits par les trois générations successives. Et au début, quand je me suis trouvé face à une quinzaine de titres qui racontent les exploits depuis les années 30 jusqu'aux années 2000, je me suis demandé comment j'allais intégrer tout ça et faire le tri dans tout ça. Donc ça a pris un certain temps pour me familiariser avec l'histoire, effectivement.
Et finalement, quelle a été la genèse du projet ? Est-ce que c'était... de la part de Bertrand, un devoir de mémoire à l'égard de ses ancêtres ou l'envie de créer des vocations?
C'est une envie de raconter l'histoire de sa famille. C'est une idée qui vient des éditions d'Argo. Bertrand Picard connaît le directeur de d'Argo et ils en avaient discuté avant qu'on m'en parle à moi. C'est une éditrice qui est venue me proposer le projet. Il se trouve que ça m'a intéressé parce que j'avais tout un parcours dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Et ce projet recoupait un peu une espèce d'idée de vulgarisation, tout en étant des aventures et des exploits historiques aussi. La partie histoire m'intéresse beaucoup, donc j'ai été intéressé par ce projet.
Qui date de quand, à peu près? Combien de temps vous avez mis pour en arriver à ce résultat?
L'éditrice m'en a parlé d'abord au printemps 2021.
Oula.
Et on en a parlé d'abord assez librement. Au début, j'ai dit, oulala, c'est énorme, j'ai des choses prévues, des choses en cours, ça me paraît difficilement faisable. Donc, j'ai un peu freiné. Et au début, j'ai dit non. Et puis, j'ai continuer à réfléchir, je me suis dit quand même, ça m'intéresse beaucoup cette histoire de bathyscaphe, de partir dans les grands fonds mystérieux, inexplorés dans les années 60, parce que il y avait un côté vraiment fascinant à cette histoire et les machines que ça impliquait, qui ont été créées pour ça. Et puis en creusant un peu, j'ai vu l'avion solaire, je connaissais déjà le lien qu'il y avait entre le père, le grand-père, le fils. Ça m'a paru de plus en plus intéressant, indispensable à raconter. Et puis j'ai une idée de titre que j'ai proposé à l'éditrice, tout en lui disant, je suis pas sûr de le faire, mais bon, j'ai une idée de titre. Alors bon, les choses évoluaient comme ça un petit peu dans l'inconscient.
C'est le titre qui était motivant.
Oui, c'est souvent le cas. Souvent le cas, il faut un titre qui est une espèce de point de départ pour raconter une histoire. Et je me disais, mais la personne qui va raconter cette histoire, comment ça va s'appeler? Et le titre m'est venu et c'est parti de là.
Alors, je me suis demandé si vous aviez établi une ligne du temps sur le mur de votre bureau avec des épingles.
Alors oui, ça s'est fait, mais ça s'est fait d'une manière un peu empirique, un peu anarchique, je dirais, dans ma manière de travailler. Parce que au début, ce que j'ai fait, ne sachant pas comment j'allais organiser cette longue histoire sur trois générations, j'ai fait des croquis et j'ai accumulé les croquis. J'ai besoin un peu de noircir du papier, de me focaliser sur telle anecdote et pas telle autre, tel épisode de la vie du grand-père et comment ça se passe avec son fils et le petit-fils et qu'est-ce qui fait le lien entre eux. Donc au début, c'était un peu des anecdotes sous forme d'esquisses, mais un peu disparates. Et le lien entre les trois et l'histoire sur un siècle, ce qui est quand même assez compliqué à mettre en œuvre, c'est fait au bout d'un certain temps. Donc le scénario n'a pas été fait de manière linéaire dès le départ.
Les inventions dont la famille Picard est à l'origine ont finalement toute une vocation à créer un monde meilleur. Et même si les intentions sont toujours pacifiques, on se rend compte qu'il y a quand même une tentation de pervertir avec des motivations militaires, non ?
Non, je crois pas, parce que les militaires sont arrivés pour prendre le relais d'inventions et d'explorations qui les intéressaient aussi. Mais c'était dans les années 50 pour le bathyscaphe Trieste, la fin des années 50 aussi, de la marine américaine, toujours pour le Trieste. c'était des objectifs militaires, mais des objectifs d'exploration qui effectivement correspondent à ces années-là. Après, dans les années 70, 80, 90, plus tard, les objectifs militaires n'étaient pas les mêmes parce que l'exploration avait été faite. Mais comme on le dit dans l'aventure racontée par Jacques Picard pour le Trieste, la marine américaine s'est intéressée au projet. Il y avait évidemment des objectifs militaires, mais des objectifs d'exploration tout court. Il y avait aussi, bon, peut-être je suis un peu optimiste en disant ça, un objectif philosophique aussi de recherche désintéressée. Mais ce qu'il a su après,
un objectif militaire.
Peut-être, on peut penser que, à ce que l'Amérique de ces années-là, c'était aussi le programme spatial. D'ailleurs, le Trieste faisait partie de plus ou moins de la préhistoire de ces objectifs-là. C'était vraiment l'Amérique exploratrice des années Kennedy et dont les objectifs étaient aussi de quelque part de conquérir le monde. Donc ça, c'est des objectifs militaires, mais aussi politiques, d'une manière plus vaste et plus large. Ça fait partie, je pense, des motivations qui étaient les leurs.
Ce qui est assez remarquable, c'est de constater que c'est sous la mer qu'on a permis le développement du LEM et de la conquête de la Lune, finalement.
Oui, entre autres, pour le programme suivant, qui est le programme du Ben Franklin, c'est le sous-marin qui a été conçu et réalisé par Jacques Picard à la fin des années 60. Et là, ça faisait partie du programme spatial, effectivement. Puisqu'il s'agissait de créer un sous-marin qui permettait de faire des études précises sur la vie dans une atmosphère confinée dont les résultats servaient la recherche spatiale directement. Donc là, c'était vraiment l'objectif. Et ça découle du Trieste qui a été le Matiscaf, le projet précédent au Ben Franklin.
On peut applaudir, je trouve, le juste dosage entre la présentation de nombreuses données scientifiques indispensables et en même temps le risque de saturation pour un lecteur lambda. Ça n'a pas été évident, ça, je suppose. Hein.
Pardon,
les données scientifiques qui parfois peuvent être un petit peu judéasemantes pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement cette fibre scientifique. Et donc, pour vous, je suppose qu'il y a un équilibre qui a dû être établi, peut-être avec Bertrand, pour faire passer certaines infos et sans pour autant en arriver à tuer le lecteur, non?
Oui, c'est très important de garder le lecteur et de ne pas l'encombrer avec des données scientifiques inutiles. Mais comme j'ai fait 10 années de vulgarisation scientifique en bande dessinée, ça m'a servi progressivement à savoir comment garder un sujet, le traduire dans un langage courant et ne pas utiliser des termes que personne ne comprendra. Donc, on peut tout à fait dire des choses très précises dans un langage courant. Et en plus, ce qui m'intéressait là dans ce projet sur la famille Picard, c'était le côté aventure. Donc, la partie scientifique un peu technique, elle est reléguée à des pages techniques qui sont peu nombreuses dans le livre et qui sont aussi tout à fait abordables pour un grand public. Donc j'ai vraiment voulu que ça soit que l'aventure soit l'exploration, l'aventure soit prioritaire dans la narration.
Alors on apprend dans votre BD que Bertrand aurait voulu, étant jeune, être cascadeur. Et donc j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années Rémi Julienne et qui n'avait rien à casse-cou. Finalement, on apprend que c'est les préparatifs qui sont longs, mais en même temps indispensables. Et comme vous le dites, enfin c'est le grand-père qui le dit. L'essentiel, c'est de bien penser à tout avant. Et si les calculs sont bons, tout ira bien. Finalement, cascadeur, inventeur, on est près de Tom Cruise, finalement, Bertrand et Picard.
Alors, lui, oui, il a un côté comme ça, peut-être physiquement, parce qu'il a quand même été champion d'Europe de voltige en deltaplane, qu'il a commencé à l'âge de 16 ans. Donc, je pense à ses parents, d'ailleurs, à l'époque. Ça devait pas être simple de voir leur fils partir dans les années 70 dans un accrocher un deltaplane qu'il avait quasiment fabriqué de ses mains, parce qu'à l'époque c'était des pionniers qui fabriquaient eux-mêmes leur matériel. Donc c'était un peu des explorateurs aussi, et là ils n'hésitaient pas à prendre des risques. Mais déjà dès l'époque du grand-père Auguste en 1931, quand il a construit sa cabine stratosphérique pressurisée fabriquée par un fabricant de tonneaux de bière pour partir à 16 000 mètres par moins 50 degrés, il y avait un côté complètement fou et complètement casse-cou, mais extrêmement calculé, parce que c'était un scientifique. Lui et son fils ont toujours tout basé sur les préparatifs calculés de tous leurs appareillages. Partir à 11 000 mètres de profondeur sous la mer par une pression considérable, il fallait que chaque boulon, chaque matériau, chaque câble, chaque matière utilisée soit calculée au plus précis pour supporter ce genre de pression. Donc qu'on vole en l'air suspendu à un câble, ou qu'on aille au fond de la mer, qu'on parte dans la stratosphère, tout ça c'est énormément de calculs. Et autant Auguste que Jacques ont tout basé sur la technologie. Bertrand, lui, a un discours différent. Il est basé sur à la fois la technologie pour Solar Impulse, mais il y a aussi toute une philosophie environnementale de recherche de repousser les limites de la technologie pour accéder à une connaissance nouvelle. Il le dit lui-même, c'est parce que lui-même n'a pas une formation de scientifique, mais une formation de psychiatre. Donc, il a une autre approche.
Alors, dans la famille Picard, on a l'impression qu'ils ont toujours un coup d'avance. Donc, ils ont à peine réalisé un exploit, qu'ils sont déjà partis sur un nouveau défi. C'est dans les gènes des Picard, ça?
Bah, peut-être. C'est leur motivation. Auguste était donc un physicien de très haut niveau qui avait côtoyé Albert Einstein ou Marie Curie ou quelques autres en son temps. Et un de ses premiers exploits, c'est d'avoir validé certains aspects de la théorie de la relativité d'Einstein, qui était à l'époque contesté par certains scientifiques, parce que ça n'a pas coulé de source dès le départ. Il fallait des validations, et lui a apporté une validation essentielle en faisant des recherches et des mesures sur la vitesse de la lumière à 4500 mètres d'altitude. Et Einstein lui en a été très reconnaissant pendant toute sa vie. Ils étaient en contact, ils ont écrit toute leur vie.
C'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans la BD. Hein.
Oui, 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 tout à fait.
Quelle époque et quelle génération ont été les plus ardues à recréer?
C'est pas forcément ardu, puisqu'il existe beaucoup de documentation, il y a beaucoup de photos, beaucoup de livres, beaucoup de littérature. Donc quand on se plonge là-dedans et qu'on va fouiller dans soit des livres qui se trouvent plus aujourd'hui mais qu'on arrive à trouver, soit des sites internet, des documents d'époque. Il existe beaucoup de choses et ça permet de recréer un peu l'imagerie aussi de cette époque. Les machines, les cabines d'une épaisseur de 15 cm d'acier qui pèsent plusieurs tonnes pour aller sous la mer. Tous les appareils incroyables qui ont été construits. Donc, il n'y a pas eu forcément de difficultés. C'est comme se plonger dans un univers et trouver des tas de petits éléments qui permettent vraiment de le faire revivre.
Alors, l'émotion est omniprésente, mais en même temps, l'humour, ça vient de vous?
Alors, l'humour, oui, parce que quand je fais des bandes dessinées, que ce soit dans un domaine scientifique, un domaine historique ou un domaine généraliste ou d'autres sujets, parce que j'ai exploré des domaines politiques, écologiques, souvent dans un domaine de reportage, parce que c'est ce qui m'intéresse, de parler du monde autour de moi et de ce que je peux observer moi-même. L'humour est omniprésent parce que pour moi, c'est un peu ma manière de faire et ma carte de visite. C'est vrai que si c'est pas drôle, ça m'intéresse pas tellement. Et dès le départ, Auguste Picard, qui est déjà un personnage de bande dessinée puisqu'il a inspiré le professeur Tournesol, lui-même, ce personnage de presque 2 mètres de haut, avec sa tête, sa coupe de cheveux et ses petits culs.
Ah, j'ai vu la photo du 5e congrès que vous reproduisez d'ailleurs, et c'est vrai qu'on le voit sortir un petit peu.
Ah bah oui,
du lot là.
Oui, il mesurait 1m96, son fils Jacques 1m98, donc c'était déjà des personnages physiquement qui sont intéressants. Voilà. Alors, on peut traiter avec humour ou pas, mais moi, j'ai envie qu'il y ait de l'humour dedans parce que ça rend les choses vivantes, que Auguste est un personnage, quand je lis ses aventures, bah, il y a un côté très drôle qui apparaît. Lui-même c'était une famille de protestants suisses très stricts, mais à travers ce côté très strict et très, un peu austère sur les bords, il y a énormément d'humour. Partir dans sa cabine stratosphérique, je trouve que c'est très drôle. Et inventer le bathyscaphe rempli d'essence pour aller sous la mer, il y a un côté comique. Pas que, évidemment, mais on peut le représenter d'une manière... en bande dessinée, c'est un sujet rêvé.
Alors, votre BD se lit comme un peu comme un thriller, et même si on connaît l'issue, finalement, il y a un côté palpitant. Est-ce qu'il y a des astuces scénaristiques de votre part pour essayer d'accrocher et de maintenir la laine?
J'avais beaucoup d'éléments, je les ai pas tous gardés, j'ai gardé les plus emblématiques parce que je voulais pas que ça devienne une liste de réalisations. Il fallait qu'il y ait un fil conducteur scénaristique. Et faire un scénario, quand on a un personnage, on développe le scénario autour de ce personnage. Mais là, j'en avais pas un, j'en avais trois. Donc, comment faire pour que le personnage principal, petit à petit... passe le relais à son fils et au bout d'un moment disparaisse, puisqu'on voit sa mort en 1962 dans les pages du livre, et le personnage principal devient un deuxième personnage qui n'était pas là au début, qu'on voit enfant, qu'on voit en personnage secondaire, et hop, il devient principal. Là, c'était compliqué à mettre en œuvre. Donc, ça demandait une espèce de transition, et j'ai beaucoup travaillé sur les transitions. Parce que justement, il y a trois Picards, comme l'indique le titre, et il faut que chaque Picard successif devienne le personnage principal à un moment donné. Donc, c'est ça qui m'a motivé pour que ça devienne pas trop abrupt, que ça soit pas chapitre 1 Auguste, chapitre 2 Jacques et chapitre 3 Bertrand, parce que entre les trois, il y a des liens qui sont essentiels et des passations qui sont essentielles qui peuvent se passer dans la filiation et une certaine fidélité à l'œuvre du père comme le cas de Jacques à Auguste et aussi dans une certaine mesure une forme de conflit entre Bertrand et Jacques, mais un conflit mêlé de liens filiales paternels très intenses aussi.
Donc, avec une reconnaissance du travail finalement quand même aussi. Hein.
Oui, une reconnaissance qui parfois ne coule pas de source au départ, parce que on pense qu'on veut s'inscrire en conflit avec le père, mais en fait le parcours est tout à fait cohérent, mais passe par un chemin qu'on n'imaginait pas au début, ce qui est le cas de Bertrand, et aussi. Rendre compte du fait que sa mère est très importante dans l'histoire, que si elle n'a pas été l'exploratrice ou la conceptrice de sous-marins qu'a été Jacques, la mère de Bertrand est essentielle dans son parcours, ce que j'ai voulu représenter dans cette histoire.
Il y a beaucoup de réussites, mais il y a quand même de temps en temps des échecs. Est-ce que c'est facile à gérer, enfin du moins vous qui avez quand même eu le privilège de côtoyer Bertrand et peut-être d'en apprendre un peu plus sur les ancêtres, est-ce que c'est facile d'acquérir cette zen attitude?
Vous voulez dire de la...
Mais parce qu'il y a parfois des échecs qui sont là et il faut les digérer, quand même repartir de l'avant.
Oui, alors ça m'a intéressé, d'abord parce qu'il y a trois schémas qu'on retrouve chez Auguste, chez Jacques et chez Bertrand, qui sont connus dans la famille, c'est qu'ils ont failli, tous les trois, être dépossédés de leur propre invention. Ça a été le cas pour Auguste, puisque son bathyscaphe FNRS 2, juste après la guerre en 1946, a pour lui... réussi son exploit et a obtenu les résultats qu'il voulait obtenir, mais après on lui a pris ses crédits en disant oh ben on n'est pas très convaincu pour le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique à Bruxelles, Donc il n'avait plus de crédit et la marine française a pris le relais. Mais là, pour le coup, c'était des militaires qui l'ont un peu écarté du projet parce que lui, c'était un scientifique avec ses idées un peu fantaisistes et il s'est pas du tout entendu avec les militaires qui, lui, eux, le considéraient comme un technicien et comme un élément du programme militaire. Donc ça s'est mal passé et il s'est considéré, lui, comme écarté de son projet à juste titre, même si on voulait le garder comme conseiller, ça lui convenait pas du tout. C'est là que Jacques entre en scène et on lui offre la possibilité de réaliser le projet qu'Auguste n'a pas eu la possibilité de réaliser. Donc c'est très poignant de voir que le père et le fils travaillent main dans la main pour un projet qui va devenir emblématique et qui va exploser tous les records de plongée.
Le rapport Meadows de 71 du Club de Rome annonçait l'effondrement de la civilisation en 2030. C'est bientôt ?
Ben, c'est bientôt et là j'ai rien inventé. Le Club de Rome a donné ses prévisions. Si la croissance continue telle qu'elle est embrayée et engagée depuis la révolution industrielle et surtout la fin de la guerre, ça n'est pas viable à terme et on donne des prévisions. Ben, je crois que le GIEC ne donne pas d'autres prévisions depuis. Mais quand on parle d'effondrement, est-ce qu'on parle d'un effondrement de biodiversité? Est-ce qu'on parle d'un changement profond de mentalité? Est-ce qu'on parle d'une épidémie mondiale? On ne sait pas, non. Parce que ça peut être un effondrement que, je crois, peu de gens contestent, à part les climato-sceptiques. Mais dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine du GIEC ou dans les prévisions qui peuvent exister, je crois pas qu'on soit très éloigné de ces prévisions-là. C'est effectivement bientôt. Bon, ben moi je rends compte de ce qui a été dit en 1972. Pour le moment, espérons que certains revirements vont être faits. C'est aussi un des moteurs de Bertrand Piccard pour sa démarche en général, sa recherche avec Solar Impulse et les autres éléments qu'il est en train de sur lequel il travaille.
On a l'impression quand même qu'on fait marcher ailleurs, que ça soit à cause du Covid ou de Trump, mais finalement on revient sur le plastique, l'énergie fossile, le nucléaire. Ça devient inquiétant quand même, non?
Ben oui, je crois que ça l'est depuis un certain temps. Donc, on peut toujours espérer que il y aura des solutions alternatives à grande échelle, puisque le message de Bertrand Piccard, c'est ne pas penser l'écologie comme une privation et une punition, mais au contraire comme une opportunité d'un changement profond et d'aborder différemment la question énergétique sur les transports, sur les logements, sur l'alimentation, sur
tout notre système,
tout ce sur quoi notre système est basé.
On apprend à la dernière page de votre BD qu'il y a eu des pasteurs, des prêtres anglicans dans la famille de Bertrand. Quelle est la place de la religion chez les scientifiques? Et vous aussi, finalement, puisque vous êtes, on peut le dire, scientifique dans votre façon d'examiner les sujets que vous abordez. Hein.
Dans cette famille, il y a effectivement une constante, c'est que ils étaient très austères et très protestants. Y compris Marianne Piccard, la femme d'Auguste, elle-même très pétrie de ces valeurs-là protestantes. Donc ça influe sur leur mentalité. Effectivement, Auguste Piccard a une fille qui est devenue pasteur, d'ailleurs la première femme pasteur en Suisse. Le fils d'Auguste, Jacques Piccard, a épousé aussi la fille d'un pasteur. Et la femme du frère jumeau d'Auguste, Jean-Félix Piccard, après la mort de son mari Jean dans les années 60-70, est devenue elle-même prêtre en anglicane aux États-Unis. Donc c'est une constante dans cette famille. Je pense que ça sous-tend une mentalité stricte et qui implique et induit une mentalité de quelque chose, comme le disait Auguste, de une recherche plus grande que au-delà de la recherche scientifique technologique. Il y a autre chose après.
Jean-Yves Ingramessy, donc on rappelle 1, 2, 3 Picard, pionnier du ciel et des abysses, paru aux éditions d'Argo. Merci.